Hello friends, aujourd'hui mon invité c'est Victor Ferry. Victor est le créateur de la chaîne YouTube éponyme, une chaîne qui a connu un succès hyper rapide et qui parvient à faire des millions de vues sur des vidéos qui parlent de rhétorique. Ouais, vous avez bien entendu, de rhétorique. Alors forcément, moi aussi, ça m'a intrigué et je suis donc heureux de vous partager aujourd'hui les explications très étonnantes de ce professeur et docteur en rhétorique, pas comme les autres. Alors vous y découvrirez comment utiliser vous aussi ces techniques pour accroître votre audience sur YouTube ou même tout simplement au boulot, comment on parvient à persuader et pas seulement à convaincre, comment gagner de l'argent grâce aux personnes qui vous détestent, pourquoi vous devez dès aujourd'hui écrire le manifeste qui va guider votre vie et plein d'autres trucs assez fun. Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas cliqué sur le bouton abonnement de ce podcast, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis enfin, s'il y a des personnalités particulières que vous aimeriez entendre sur ce podcast, n'hésitez pas à me le dire sur mon adresse mail christophe@sabreclair.fr. Tout de suite, mon échange avec Victor Ferry. Bonjour Victor, je suis très heureux de te recevoir sur Sabreclair, bienvenue.
Enchanté Christophe, content d'être là.
Alors, avant d'entamer notre discussion, je pense qu'il y a un point qui est important à préciser. Je m'en suis rendu compte quand mon fils est rentré en septembre et dans sa nouvelle école et qui m'a dit « on va faire comme Victor Ferry, on a des cours d'éloquence ». Et je lui ai dit « entre rhétorique et éloquence, il y a une petite différence ». Et est-ce que tu pourrais, entre dialectique, éloquence, l'art oratoire de manière générale, nous préciser peut-être ce qu'est la rhétorique, ou en tout cas ce qu'est pour toi la rhétorique, parce que j'ai cru comprendre au travers des vidéos de ta chaîne que tous les rhétoriciens n'ont pas non plus forcément la même définition de la discipline.
Oui, il peut y avoir beaucoup de définitions de ce qu'est la rhétorique. Moi, ce que j'aime bien, c'est repartir de l'Antiquité grecque, parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé quand j'étais chercheur à l'université. Et donc la rhétorique, quand elle est née dans l'Antiquité, c'était une discipline qui était au service de la démocratie. Donc à savoir, c'est un ensemble d'outils pour que les citoyens puissent prendre la parole, donc structurer un discours, être capable d'anticiper les objections. Parce que dans l'Antiquité grecque, savoir bien prendre la parole en public, c'était souvent une question de vie ou de mort. Ça veut dire qu'on pouvait être attaqué en justice par un voisin qui disait par exemple qu'on l'avait spolié, qu'on l'avait diffamé, etc. Et si on n'était pas capable de bien se défendre face à l'Assemblée des citoyens, on pouvait perdre le procès. Ça passait pas par des avocats, c'était soit on gagne, soit on perd. Et il pouvait y avoir des peines très lourdes. C'est un exemple fameux, c'est par exemple Socrate. Socrate a perdu son procès face à des gens qui l'accusaient de corrompre la jeunesse et il en est mort. Il est mort parce qu'il n'a pas été capable de l'emporter dans le cadre de ce procès. Donc la rhétorique, c'est un ensemble d'outils qui permettent aux citoyens d'être efficaces quand ils prennent la parole en public. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes enjeux tout à fait pour nous que dans l'Antiquité grecque, parce que c'est une démocratie qui est moins directe. Mais quand même, dès qu'on commence à être un petit peu exposé sur les réseaux sociaux, on peut se retrouver confronté à une vague de diffamation, à une vague de haine. Et vu que le temps de la justice sur les réseaux sociaux est beaucoup plus rapide que le temps de la justice traditionnelle, on a plutôt intérêt d'être capable de se défendre. Donc je dirais que la rhétorique, c'est ça, c'est un ensemble d'outils qui s'opposerait à l'éloquence, dans le sens où l'éloquence, c'est plus l'art de faire des discours qui sont jolis, qui produisent un effet waouh chez le public. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut viser quand on fait un discours, mais c'est une catégorie plus restreinte de la rhétorique.
Mais du coup, à l'inverse, la rhétorique potentiellement n'a pas de limite, puisque pour être capable de se défendre, il faut l'art oratoire, il faut effectivement les bons arguments, mais ça tire également probablement la capacité à raisonner correctement, donc probablement une dimension philosophique, voire finalement une connaissance, par exemple géopolitique, si tu travailles au ministère des Affaires étrangères, en tout cas une connaissance, un savoir complet qui est important. Donc tu traces où la limite de la rhétorique ?
Le truc, c'est que la rhétorique, c'est appliqué à une discipline qu'on connaît. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne prend pas la rhétorique, on ne parle pas en public pour... pour brasser de l'air. Et c'est ça le problème que j'ai avec les concours d'éloquence. C'est que les concours d'éloquence, et souvent, on donne un sujet qui est un petit peu hors sol, du type, je sais pas moi, est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché, ou j'en sais rien, un sujet qui sonne bien. Et les gens doivent être capables très rapidement de pouvoir produire un discours là-dessus. La rhétorique, c'est vraiment appliqué à notre savoir. Et donc, moi, le modèle que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui est spécialiste d'une discipline, qui en a marre que autour de lui, il y a d'autres spécialistes ou de gens qui se prétendent pour des spécialistes, qui se prétendent spécialistes, mais qui sont plus entendus que lui. Eh bien, le spécialiste a intérêt à se former à la rhétorique pour que ses discours deviennent plus efficaces. Mais on ne peut pas mettre des pansements sur une jambe de bois. Donc, une personne qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'expertise, la rhétorique ne va pas l'emmener bien loin. Donc, c'est vraiment un outil qui permet à des gens qui ont des choses à dire de le dire mieux.
D'accord. Donc alors, on voit bien que ça peut s'appliquer au champ politique, ça s'applique évidemment aux avocats, probablement aux chefs d'entreprise pour qui la prise de parole est importante, que ce soit dans les médias ou vis-à-vis de leurs collaborateurs. Est-ce que c'est pas un outil trop important finalement pour le tout un chacun dont l'expression publique est relativement faible et consiste peut-être principalement quand tu es collaborateur d'un grand groupe à prendre la parole devant ton équipe ou devant quelques collègues?
Mais c'est là que tout se joue. En fait, une personne qui fait une carrière dans son entreprise, il y a beaucoup de choses pour son avancement qui vont se jouer à la manière dont elle va négocier ses prises de parole en public. Donc, et encore une fois, je pense que c'est vraiment le fait qu'on ait les yeux rivés sur l'éloquence, sur les plaidoiries des avocats, sur les discours des hommes politiques qui donnent une image complètement biaisée de la discipline. Là, encore une fois, la rhétorique, c'est un ensemble d'outils qui permettent à ceux qui ont des choses à dire de le dire mieux. Donc la base, c'est quand on se spécialise au fur et à mesure de sa carrière, on devient meilleur dans un domaine. Mais si on devient bon dans un domaine et que les autres ne le savent pas, ça sert pas à grand-chose. Et c'est là que la rhétorique entre en jeu. Ça permet d'être meilleur pour faire rayonner nos connaissances et nos compétences.
Alors, tu sais quand, à quel moment à l'école on a abandonné cette discipline?
Je crois que c'est au début du siècle, et je crois même que c'est Jules Ferry qui l'a sorti des enseignements, parce que justement, il y avait cette idée que la rhétorique était une discipline trop élitiste et qu'elle crée un écart trop important entre les professionnels, bah notamment les professionnels de la politique qui étaient très habitués qui étaient rodés à l'exercice, et le commun des mortels. Et donc, très régulièrement dans l'histoire, c'est la décision qu'on prend. C'est bon, il y a un trop grand écart entre les gens qui savent bien l'utiliser et les autres, donc on va essayer de réduire l'efficacité de ces disciplines. En fait, ça marche jamais parce que si on coupe l'enseignement de cette discipline, ça n'empêche pas ceux qui deviennent bons ou ceux qui ont le bagage culturel nécessaire de s'approprier ces outils. Donc c'est pas une bonne stratégie. Et je trouve que c'est assez positif aujourd'hui que la discipline soit à nouveau enseignée, mais il faut vraiment que les garder à l'esprit que apprendre la rhétorique, c'est pas quelque chose qui remplace le fait de disposer d'un savoir, de disposer de connaissances. Et donc le modèle que j'ai moi pour les collégiens, pour les lycéens, c'est commencer par vous passionner pour un sujet. Commencez par vous passionner pour un sujet, par exemple peut-être que c'est les cours d'histoire qui vous plaisent le plus, peut-être que c'est les cours de philo qui vous plaisent le plus, bah commencez à vous approprier cette discipline et sur les réseaux sociaux, commencez à en parler. Pour moi, c'est ça la base de l'apprentissage de la rhétorique.
Ouais, donc en gros, vous n'aviez pas déjà un art oratoire ou une capacité de conviction, de persuasion, il faut que je fasse attention à mes mots, de persuasion incroyable, mais en plus, à l'école, on vous a retiré les armes pour cultiver justement cette discipline-là. Et alors, tu parles pas mal des réseaux sociaux. L'un des trucs que j'essaye de véhiculer à travers ce podcast, c'est justement expliquer pourquoi telle ou telle discipline, domaine scientifique est important pour vivre mieux ou vivre une vie plus accomplie. Donc l'image qu'on pouvait avoir peut-être initialement de la rhétorique comme un truc suranné, effectivement, de l'époque d'Aristote et de la Grèce antique, toi, tu l'appliques véritablement au monde quotidien. Alors, on a parlé de la capacité de persuader en entreprise et de faire savoir ce qu'on fait, ce qu'on fait bien. Pour les plus jeunes, donc tu as parlé de collégiens et lycéens, c'est quoi les champs d'application concrets que tu vois à la rhétorique?
Bah, un collégien ou un lycéen, il passe beaucoup de temps sur TikTok et sur Instagram. Sur ces réseaux sociaux, il y a deux types de profils qui vont se présenter. Il va y avoir des créateurs, il va y avoir des consommateurs. Et l'objectif pour, je pense, le collégien ou le lycéen, c'est plutôt d'être celui qui va constamment cliquer sur les profils de ceux qui ont fait le travail de bien se montrer, se dire, mais pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas les réseaux sociaux pour moi partager des choses intéressantes? Donc les réseaux sociaux, c'est la nouvelle agora. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est là que les choses se passent, on passe beaucoup de temps en ligne, et donc il faut prendre les réseaux sociaux comme un extraordinaire terrain de jeu rhétorique. Et ce qui est génial, c'est que chaque réseau social a son propre format. C'est pas du tout pareil de créer sur Twitter que de créer sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. À chaque fois, c'est des types de formats qui sont différents. Et apprendre à créer du bon contenu sur ces différents formats, ça ressemble quand même beaucoup à l'apprentissage de la rhétorique de l'Antiquité. Parce que dans l'Antiquité, c'est ça qu'on apprenait. On apprenait la rhétorique dans différentes situations. Quand on fait un discours de célébration, quand on fait un discours politique, quand on fait un discours judiciaire, on apprenait des types de discours adaptés à certaines situations de prise de parole. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. On apprend à faire des types de discours qui sont adaptés à un certain public, à un certain média. Certains vont être plus visuels, dans d'autres, il y a le son qui va être plus important, dans d'autres, ça va être l'écrit qui va être le plus important. Et donc, on peut faire ces gammes en rhétorique en se forçant à créer du bon contenu sur les différents réseaux sociaux.
Ouais, parce que tu parles de discours et t'évoques Twitter et t'évoques l'écrit. En fait, c'est pas que du discours oral, la rhétorique, ça s'applique également au style écrit.
Absolument. La base pour devenir un meilleur orateur, c'est d'écrire souvent. Souvent, les gens qui viennent pour se former chez moi, ils ont comme demande, j'ai du mal à structurer mes idées. Et en fait, structurer ses idées comme structurer son discours, ça passe par le fait d'écrire. Parce que ce qu'on fait quand on écrit, c'est qu'on met notre pensée sur du papier, et après on peut commencer à enlever ce qui est superflu, on peut commencer à l'organiser pour que ce soit plus efficace, et on se rend compte quand on écrit régulièrement que ça permet de se constituer ce que j'appelle des petits îlots d'éloquence. Ça veut dire que quand on prend la parole en public à l'oral de façon impromptue, on peut se rattacher aux choses qu'on a posées sur le papier. Et ça permet de dire des choses qui sont plus précises. Quand on parle de façon orale, oui.
Et alors, est-ce que c'est la garantie, maîtriser la rhétorique, de pouvoir faire le buzz sur les réseaux sociaux et donc d'attirer une audience importante?
Ah, moi, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est une utilisation très spécifique de la rhétorique, la recherche du buzz. C'est taper sur des leviers de la curiosité. Et donc, les gens sont attirés par quoi? Ils sont attirés par le statut. Ils sont attirés par le conflit et ils sont attirés par l'étrange. C'est ça. Et donc quand on est capable de mêler ces éléments, ça marche très bien. Donc quand il y a un clash entre des célébrités et qu'on est capable de faire un commentaire de ça, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Quand on est capable de montrer des choses extraordinaires, je sais pas moi, la plus petite femme du monde qui conduit le plus grand camion du monde, enfin ce genre de choses, ça capte immédiatement l'attention. Dès qu'on est capable de casser des patterns, donc on est capable de casser les attentes de la normalité. En général, on va être capable de capter l'attention. Donc il y a ça, jouer sur être capable de rompre les attentes. Et sinon, il y a vraiment les choses basiques. Les gens tournent les yeux vers ceux qui sont célèbres. Les gens tournent les yeux quand il y a un conflit, parce que fondamentalement, on est des commères. Donc il faut connaître ces leviers-là. Mais c'est vraiment un petit champ de la rhétorique à cultiver parce que ça permet d'attirer l'attention sur nos discours, mais il y a beaucoup d'autres champs à explorer. Et quelqu'un qui aurait commencé par la recherche du buzz s'épuiserait très vite, parce qu'au bout d'un moment, ça fait venir le public, mais si on veut fidéliser un public, il faut qu'il y ait du fond.
Et alors, du coup, est-ce que je comprends bien en disant que tous les apôtres du storytelling, eux, sont très bons justement pour créer de la visibilité, faire ces ruptures de patterns qui vont attirer mécaniquement le cerveau, mais finalement se cantonnent à une part très limitée de ce qu'offre la rhétorique en termes d'outils?
Le storytelling, c'est déjà une compétence avancée. Là, le storytelling, c'est plus une compétence pour maintenir l'attention que pour la capter. Le storytelling, c'est l'art d'instaurer une tension Donc on va instaurer une tension en posant quelques éléments et en montrant qu'il y a quelque chose de très important, de quelque chose de très étonnant, mais on va délayer le moment où on va donner le fin mot de l'histoire. C'est déjà des compétences qui sont assez avancées. C'est des compétences qui sont nobles, qui puisent leur source dans le roman, qui puisent leur source... faut être un très bon scénariste pour faire du storytelling. Donc je dirais pas que c'est un outil pour la recherche du buzz. Par contre, le storytelling, c'est une des compétences de la rhétorique qu'on peut utiliser pour faire un discours qui est structuré, mais le plan de l'histoire, c'est qu'un seul des plans. On peut imaginer tout un tas d'autres plans qui vont être tout aussi efficaces pour pouvoir maintenir l'attention du public.
Ok, alors dans ce que tu dis, entre les lignes, je vois une connaissance fine de la psychologie. Je sais que c'est quelque chose que tu regardes de près ou que tu étudies, même probablement. Tu as fait la promotion de certains bouquins que j'ai lus, que j'ai dévoré d'ailleurs, notamment de Jonathan Haidt, qui est un psychologue américain absolument, absolument remarquable. Moi, dans mon métier où je m'intéresse également au comportement, je suis souvent finalement presque déçu par ce qu'apportent les neurosciences, où j'ai le sentiment que les neurosciences apportent une explication sur la psychologie humaine, mais finalement n'inventent pas grand-chose de nouveau. Toi, quand tu regardes à la fois Quintilien, Socrate, les auteurs classiques, et puis justement des psychologues modernes et des études probablement issues également des neurosciences, est-ce que on a appris des choses nouvelles depuis Socrate sur la manière dont l'humain fonctionne, ce qui est propre à le persuader?
Oh bah heureusement, évidemment, oui. La différence, c'est que aujourd'hui, on peut beaucoup plus facilement tester des hypothèses. À l'époque d'Aristote, c'est très empirique. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'observer que si on met le public dans telle disposition émotionnelle, ça va pas. Ils avaient cette distinction entre la voix de la raison et la voix de l'émotion, que on va plus facilement gagner un procès si on est capable d'attirer la pitié sur un des acteurs et la colère sur un des autres acteurs. Mais c'était des hypothèses qui étaient un petit peu à la louche. Ça suffit en général, hein, parce que si on est capable de faire des bons discours et d'appuyer sur les bons boutons. En général, on prend de l'avance par rapport à quelqu'un qui parlerait au petit bonheur la chance. La différence aujourd'hui, je ne sais pas si c'est tellement dans le domaine des neurosciences qu'il y a les avancées les plus importantes pour ma discipline. Je dirais que c'est plutôt au niveau de la collecte de données. Parce que quand on est capable d'exposer le public sur les réseaux sociaux, d'exposer le public à un discours qu'on est capable de faire des nuances fines du type j'expose une partie de mon auditoire à un type de discours, l'autre partie de mon auditoire à un autre type de discours, et je regarde les différences de comportement, on peut tester des hypothèses beaucoup plus facilement qu'avant. Donc je dirais que c'est là qu'il y a des avancées. On peut faire des hypothèses fines, mais c'est lié aux outils. C'est lié aux outils qui sont les nôtres aujourd'hui, et c'est... quand quelqu'un publie régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux, il y a plein d'indicateurs qu'on peut regarder. On peut regarder en termes de viralité, en termes de courbe d'attention. Donc là, il y a des vraies avancées pour quelqu'un qui veut prendre ça au sérieux, absolument.
Donc tu fais ton propre A/B testing grâce aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui qu'on ne connaissait pas à l'époque d'Aristote, par exemple? Tu aurais un exemple à nous donner?
Ben, moi, là-dedans, pour être précis, je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent de façon assez basique. Donc tout ce qui est effectivement attrait pour le scandale, attrait pour le buzz, la question des statuts, etc. C'est des choses qui marchent toujours. Les plans dans lesquels on est capable de créer une tension, de maintenir une tension, c'est des choses qui marchent toujours. Mais le truc, c'est que pour moi, la question, c'est pas tellement de faire des hypothèses comme ça en général. Les humains réagissent habituellement de telle manière. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est qu'un créateur, il va avoir un public, et ce qui est important, c'est de faire des tests sur son public à lui et de voir que y a des choses qui vont fonctionner mieux que d'autres pour son public à lui, et surtout voir qu'il y a des choses qui marchaient à un moment, qui commencent à marcher de moins en moins bien, et il faut être capable également de se renouveler. Pour moi, c'est plus ça qui est intéressant plutôt que d'essayer des hypothèses très générales. Un créateur a un public, il a des outils pour comprendre comment il réagit.
Oui, d'accord, ok. Alors, En regardant tes vidéos, parfois, alors je suis saisi un peu de découragement en me disant, il y a une telle masse de techniques, de savoir-faire pour progresser dans cette discipline que ça peut paraître un peu too much et on se dit, waouh, non, en fait, c'est intéressant, mais enfin, c'est trop pour moi. Toi, tu es docteur, je suppose, en rhétorique. Pour le tout un chacun, avec les élèves que tu formes ou les professionnels que tu accompagnes, au bout de combien de temps on peut estimer avoir amélioré l'efficacité de son discours?
Ah, il y a vraiment une différence, hein, entre des gens qui vont rester à un stade. J'ai un peu compris comment ça marche. Ce serait bien que je le fasse un jour. Et des gens qui testent vraiment, parce que finalement les choses c'est assez simple. Enfin, une des manières dont on va être capable de faire une vidéo qui marche, c'est d'être capable de réagir rapidement une fois qu'un événement s'est produit. Et donc ça veut dire avoir un plan de discours assez simple. Vous avez tous vu passer cet événement, regardez à quoi ça ressemblait, mais il y a cet élément qui vous a échappé, et pourtant c'est un élément qui est très important et on va le développer ensemble. Voilà, il faut être capable d'avoir un plan qui permette d'emmener le public comme ça, en partant de quelque chose qui a capté son attention, vers une réflexion un peu plus élaborée. Mais entre comprendre ça et se dire maintenant je le mets en œuvre, bah souvent il y a des gens qui restent au stade de la théorie. Et donc le fait d'être capable de passer à la pratique, c'est ça qui va faire la différence. Et donc, une personne qui décide de faire une vidéo efficace en suivant les choses que je peux dire dans mes vidéos ou les choses que je peux dire dans mes formations, il peut décoller très très vite. Mais la question, c'est est-ce qu'il va être capable de faire ça régulièrement? Est-ce qu'il va être capable, vidéo après vidéo, de chercher cette petite dimension de performance supplémentaire? Et donc ça demande un vrai travail.
Et donc c'est là qu'on touche à la distinction que tu fais régulièrement entre conviction et persuasion.
Ça, c'est autre chose. Oui, en fait, quelqu'un qui m'écoute, effectivement, peut être convaincu que ce que je dis, ça se tient, mais il est persuadé si effectivement il agit en conséquence. Et il y a des gens qui vont passer une vie à se dire, si je voulais, je ferais une bonne vidéo, si je voulais, j'écrirais un bon roman, si je voulais. Mais il faut vraiment passer à la pratique. Mais ça, c'est quelque chose, c'est plus, est-ce qu'on est capable d'exécuter? Et même moi, je vois que la distance entre le temps entre le moment où je décide de tester une chose et le moment où je le fais effectivement, ça peut prendre vraiment longtemps. Là, par exemple, à Noël de l'année dernière, il y a un créateur que j'ai commencé à voir qui avait une capacité à publier 2-3 vidéos par jour avec un format de réaction, et ça avait l'air super intéressant. Et j'ai entre le moment où je me suis dit ça a l'air super intéressant et le moment où j'ai lancé une troisième chaîne sur la base de ce format, il y a eu 6 mois. Donc pour moi, c'est vraiment ça le point, c'est que quelqu'un ne va progresser en rhétorique que si, une fois qu'il m'a écouté, se dit, bah voilà, je vais pas me dire, Victor, est-ce que tu aurais pas des livres à me conseiller sur la rhétorique? Non, je vais me dire, maintenant, je fais une vidéo et j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu meilleur que ce que j'aurais fait spontanément, parce que je vais essayer d'utiliser telle ou telle technique.
Et alors pour toi, en psychologie, enfin, ou dans ta compréhension de la psychologie humaine plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer du stade de la conviction à la persuasion? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens cliquent, l'auditoire clique et qu'il se dit, OK, non seulement je suis convaincu, mais je passe à l'action?
Bah, il y a plusieurs choses. Il y a la répétition. Il faut que quelqu'un ait entendu le message plusieurs fois. Il y a le sentiment de compétence, donc la confiance qu'on est capable de leur donner dans le fait que c'est possible. Et donc ça, en général, ça passe par casser quelque chose qui a l'air très important, comme faire une vidéo en des plus petits morceaux. Et donc là, la manière dont je le fais, c'est que sur ma chaîne secondaire, je fais faire des exercices aux gens. Et donc je lance un exercice et la personne qui écoute cet exercice et décide de le faire en commentaire, c'est déjà un petit pas. Et après, si je lui dis, mais regarde le petit texte que tu as fait en commentaire, il suffit de te mettre face à une caméra et de le prononcer et tu as déjà une vidéo. Donc je pense que le fait de décomposer un objectif qui a l'air important en plus petits objectifs, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et après, faut le plaisir. En fait, il faut le plaisir, se dire à un moment, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Il faut être vraiment animé par la volonté de faire ça. Et je pense que le dernier élément, c'est le fait d'être capable de se départir du regard des autres. Moi, il y a beaucoup de choses que je me suis retenu de faire dans ma carrière de créateur parce que j'avais peur de la réaction du public. Et plus ça va, plus je pense qu'un bon créateur, c'est vrai aussi pour les artistes, évidemment. C'est quelqu'un qui est capable de s'abstraire de la réaction du public, parce que de toute façon, si on essaie de caresser le public dans le sens du poil, on devient inintéressant. On devient inintéressant. Et donc le public a toujours envie de nous faire des conseils, des critiques, de dire « tu devrais faire un peu plus comme ça », mais si on les écoutait, on deviendrait moins intéressant. Et surtout, on perdrait notre élan créatif. Et l'élan créatif, je pense que c'est la capacité à résister aux conseils et aux critiques. Donc je dirais qu'il y a ces éléments. Si on veut
donc
pousser
toi, t'as...
quelqu'un, ouais.
Pardon, vas-y, excuse-moi.
Si on veut pousser quelqu'un à agir, il faut répéter plusieurs fois le message. Il faut casser les objectifs en petites actions qui sont applicables. Il faut que la personne ait vraiment envie de le faire et il faut que la personne arrive à se départir de la peur de décevoir le public.
Ouais, ce qui est loin d'être évident, enfin, une question perso, un peu plus personnelle que du coup j'aimerais te poser, si ça t'ennuie pas. On a cette aversion à la perte qui est extrêmement ancrée dans notre psychologie, et par ailleurs on a également ces instincts tribaux où faire partie du groupe et éviter le rejet du groupe et enfin on est câblé dans le dur pour ça. Et donc l'aversion à la perte du groupe, c'est probablement un des instincts les plus forts qui explique qu'on vive constamment sous le regard des autres et qu'on ait du mal à s'en départir. Ça fait donc quelques années que je te suis et il y a certaines de tes vidéos qui t'ont valu quelques clashs ou des retours un petit peu plus violents. Tu as durci ton cuir, tu trouves un plaisir maintenant dans le fait d'être, d'être clivant ou, et comment tu fais pour, en gros, rester, tu vois, continuer à dormir, même si tu t'es fait clasher par potentiellement d'ailleurs quelqu'un que tu admirais par ailleurs.
Moi, je l'ai gamifié. En fait, c'est une. Je pense, non, mais vraiment, je pense qu'une manière de faire des choses qui, au départ, nous étaient désagréables. Il faut remettre une dimension ludique dedans. Moi, c'est ça que j'ai fait, c'est qu'il y a, il y a un moment, donc je commence à être exposé parce que j'ai une chaîne qui est vue, etc. Et donc il y a plein de gens du coup qui se permettent de réagir, de répondre. Et certains créateurs vont choisir la voie de je suis au-dessus de ça, je vais tout droit, etc. Et ouais. En fait, il y a un moment, je me suis vraiment dit, mais regarde, ton absence de réaction, est-ce que c'est pas parce que t'as peur? Est-ce que c'est pas parce que t'as peur de réagir? Et donc quand je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, mais non, mais toi t'es pas quelqu'un, t'as peur. T'es pas quelqu'un qui a peur. Donc c'est hors de question que tu refuses de répondre à des gens parce que tu as peur. Donc ça, ça a été la première étape, c'est que je me suis dit, mais en fait, répondre aux personnes qui se permettent de critiquer mon discours, ça fait partie de moi. Et après, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour développer la compétence? Parce que c'est très différent d'être capable de faire des vidéos où on est l'ami du public, par rapport à faire des vidéos où on va affronter quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'ai créé le système du drama productif, qui est mon émission sur ma chaîne secondaire, où ce que je fais, c'est que je monétise les vidéos dans lesquelles je réponds aux personnes qui m'attaquent, et j'utilise cet argent pour investir. Donc il y a une partie de cet argent que j'utilise pour financer des associations qui vont selon moi dans le bon sens, et l'autre partie de cet argent que j'utilise pour faire grandir un portefeuille boursier. Et donc là, tout de suite, je trouve ça beaucoup plus marrant. Et donc ça permet de se dire, quand une personne fait un discours très désagréable à mon égard, bah, de digérer beaucoup plus rapidement le fait « quelqu'un m'a attaqué », de le changer en « je vais me faire un billet sur toi, mon gars ». Et donc, vraiment, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et donc, après, le côté « j'ai envie de marquer des points », ça permet bah, de pratiquer plus régulièrement le clash, de prendre plus de plaisir. Et c'est comme ça qu'on développe la compétence. On développe la compétence parce qu'on a trouvé un système qui fait qu'on marque des points. Donc, on a ce côté récompense et on prend de plus en plus de plaisir à le faire parce que c'est marrant. C'est marrant, en fait, c'est un jeu. Donc, j'imagine que les gens qui m'attaquent, ils trouvent pas ça marrant. Et moi, je m'en fiche, ils n'étaient pas obligés de m'attaquer. Ce qui est important, c'est que moi, je trouve ça marrant.
Et du coup, tu recherches le clash maintenant ?
Non, j'attaque jamais, en fait. Ce qui est... ouais. Par contre, ce que ça a fait, c'est qu'on se sent beaucoup plus libre, parce qu'il y a justement beaucoup de choses qu'on se retient de dire, parce qu'on a peur de recevoir des critiques. Et donc on va avoir tendance comme ça à s'auto-censurer. Et moi, j'ai plus besoin de m'auto-censurer, parce que quoi que les autres disent, de toute façon, j'arriverai à le récupérer et à l'utiliser à mon avantage. Donc c'est une grande libération. Et c'est pour ça que j'invite vraiment la plupart des gens, enfin tout le monde, à se former à la dialectique, parce que quand on arrive à ce stade où on se dit, mais quoi que les gens disent, je serai capable de démonter leur discours, on n'a plus à se censurer et on n'a plus à se retenir de dire des choses.
Ouais, alors tu t'es capable de dire ça parce que tu me corrigeras le cas échéant. Parce qu'en fait, tu sais exactement où tu vas. T'as parlé de sens, t'as parlé de ces associations auxquelles tu donnes parce qu'elles ont du sens. Et donc, t'as ce que tu décris dans certaines de vidéos, un système de pensée avec un objectif. C'est quelque chose qui est très récurrent dans tes vidéos et tu parles notamment souvent de cette notion de manifeste, écrivez un manifeste, etc. J'y pense simplement parce que tu dis je ne me censure pas. Alors on pourrait dire ouais mais il se censure pas. Tu as parlé notamment là du spécialiste ou de la rhétorique qui intervient sur France Info, Clément Viktorovitch. C'est vrai que quand tu regardes la vidéo pour la première fois, tu te dis, ouais, il se le tape bien parce que ton discours final, qui est d'ailleurs énorme, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, faut vraiment l'écouter, il est ciselé et il est vraiment, vraiment top. Mais en fait, tu le fais pas pour le plaisir de lui mettre une balayette à ce Clément Viktorovitch, tu le fais parce que derrière, tu as un objectif méta, on va dire, que tu recherches. Donc, tu as ton manifeste. C'est quoi ce manifeste que tu veux promouvoir, pardon?
Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. En fait, la première chose, c'est que il faut pas se lancer dans des combats en son nom propre. Sert à rien. Sinon, c'est juste un conflit d'ego. Il faut se lancer dans des combats parce qu'on a effectivement pris le temps de mettre sur le papier les choses qui sont importantes pour nous et parce que vu qu'on a fait ce travail, on est capable d'identifier ceux qui vont avoir tendance à aller dans l'autre sens, ceux qui vont avoir tendance à faire advenir notre dystopie plutôt que notre utopie. Ça, le point. Et donc, c'est ça qui donne de la force quand on part dans une controverse, dans un conflit d'idées, c'est qu'on n'y va pas pour nous. On y va pour nos idéaux et pour ceux qui les partagent. Donc c'est comme ça qu'on gagne en force. En l'occurrence, le point de mon manifeste qui rentre en jeu quand je vais faire une controverse avec un autre rhétoricien qui fait un peu le même métier que moi, mais je ne considère qu'on ne fait pas le même métier, c'est qu'il y a beaucoup de décrypteurs qui vont créer une alliance avec leur public sur le dos des personnes dont ils parlent. Donc c'est typiquement, je sais pas quoi, moi, Mélenchon a fait un discours, Macron a fait un discours, quiconque a fait un discours. Regardez, il a fait des sophismes. Regardez, là, il a utilisé un homme de paille ou je sais pas quoi. Et donc le public qui regarde ça, évidemment qu'il n'est pas capable de faire un discours aussi bon que celui de Mélenchon, aussi bon que celui de Macron. Peut-être qu'il a jamais pris la parole en public, mais il va quand même se dire sur son canapé, regardez, ils sont mauvais, mon décrypteur a trouvé des sophismes dans son discours. Et donc, pour moi, c'est ça le point, c'est que je veux que mon public soit le héros de mes vidéos. Et donc, ça veut dire que quand je fais une analyse d'un homme politique, l'objectif, c'est pas que mon public se dise « je suis plus malin que lui ». L'objectif, c'est que mon public se dise « j'ai compris comment ça fonctionnait et maintenant, j'ai envie de le faire ». Parce que ça sert à rien, en fait, de détester un professionnel de la politique. Ce qui est utile, c'est de se dire « mais ok, lui, en attendant, les projecteurs sont braqués sur lui ». Comment est-ce que je pourrais faire pour que les projecteurs soient braqués sur moi? Comment est-ce que je pourrais faire pour porter mon discours et mes convictions avec plus d'efficacité? Et donc pour moi, il y a une vraie différence entre quelqu'un qui va pratiquer la rhétorique comme une analyse de discours et quelqu'un qui va pratiquer la rhétorique comme un outil de production. Et pour moi, la rhétorique, c'est un outil de production. C'est pas fait pour analyser les discours des autres. C'est fait pour faire nous-mêmes de meilleurs discours. Donc ça, c'est vraiment un des points qui est très important pour moi. Je ne veux pas que mon public soit passif. Je veux que mon public soit actif parce qu'on est de plus en plus dans une société du commentaire. Et ça va, quoi. Je trouve que vraiment, en France et en Europe, on est en train de se faire manger parce qu'on est de moins en moins audacieux, on est de moins en moins créatif, on est de moins en moins productif. Et il faut se mettre un peu plus au travail. Donc moi, je le fais par le cadre de ma discipline. Et donc, ça, des fois, ça me pousse à me friter avec les gens, parce que quand quelqu'un va me faire un long commentaire sous ma vidéo, je lui dis, mais tu perds ton temps. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une vidéo pour dire ça? Et par ailleurs, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à m'attaquer moi, alors que tu pourrais faire un discours qui met en avant tes valeurs? Pour moi, c'est ça qui est important. On devrait passer beaucoup plus de temps à essayer de faire avancer les choses qui nous tiennent à cœur, plutôt que de s'attaquer aux personnes où on se dit, bah lui, j'aime pas ce qu'il dit. Bah dans ce cas-là, t'aimes quoi? Et pourquoi est-ce que tu parles pas de ce que t'aimes, au lieu de perdre du temps à parler de ce que t'aimes pas?
Et tout le monde peut avoir un manifeste, enfin, tu vois, un lycéen ou un jeune étudiant, parce que manifeste, le terme est assez fort, on imagine vraiment la grande cause de ta life. Ça demande d'avoir discerné probablement sur quel est le sens de ma vie, tout ça.
Ça, donc déjà, c'est quelque chose qui évolue, et il faut commencer par quelque chose de très simple. Je pense qu'il faut commencer par se mettre dans une bulle de concentration. Donc ça veut dire on prend une demi-heure, on coupe les réseaux sociaux et à la limite on prend un morceau de papier et on répond simplement à cette question. Dans quel monde je ne veux pas vivre? Donc on fait une série de phrases. Et puis les trucs qu'on va mettre au début sur le papier, ça va être un peu bébête. Voilà, je ne veux pas vivre dans un monde où il y a de l'injustice, je ne veux pas vivre dans un monde, etc. Au début, ça va être un assez haut niveau de généralité. Et on va poser également sur le papier dans quel monde je veux vivre. Bah, je veux vivre dans un monde où les gens sont plus, etc. Et après, la question, c'est est-ce que dans les décisions que je prends, je suis capable d'identifier le choix qui irait contre mon manifeste? Est-ce que je suis capable d'identifier le choix qui irait du côté de mon manifeste? Et le fait de faire ça régulièrement et après de revenir à ce qu'on a écrit, ça va permettre d'incarner tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, ça permet de dire, bah, dans telle situation, pour être en accord avec les principes, je vais faire plutôt ça que ça. Et c'est un travail qui est important de faire régulièrement. Et je pense que le fait d'écrire, de créer du contenu, ça aide à se construire un cap et à le garder. Donc il faut le prendre comme un travail qui, comme tous les travaux, quelque chose qui commence doucement, quelque chose qui commence simplement. Mais il faut être convaincu que c'est important. Et moi, ce que je dis, c'est que si on n'a pas pris ce temps de poser notre idée d'un monde meilleur sur le papier, on est un jouet. En fait, on est un jouet des mondes que veulent faire advenir les autres.
Alors, il y a ceux qui sont les jouets ou les cadavres qui suivent les courants, on va dire. Et puis, tu as ceux qui cherchent à avoir une action, on va dire, d'influence. Mais dès qu'on parle d'influence, dès qu'on parle de trucs pour convaincre, persuader. Je suis désolé parce que c'est la question qu'on te pose à chaque fois et que tout rhétoricien est obligé à laquelle tout rhétoricien est obligé de répondre à un moment ou à un autre, c'est celle de la manipulation. À partir du moment où tu utilises des trucs pour convaincre, tu es suspect de manipuler. C'est quoi le cadre éthique que toi tu te fixes? C'est quoi la réponse que tu apportes à cette objection?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que la plupart des gens sont absolument inoffensifs. C'est la première des choses. La plupart des gens sont absolument inoffensifs parce que quand ils prennent la parole, il ne se passe rien. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont perdre du temps à essayer de critiquer la rhétorique en disant « mais peut-être que… » Ok, d'accord. Et tu vas passer une vie à prendre la parole, il ne se passera rien. Parce que tu auras préféré philosopher sur la rhétorique plutôt que de vraiment la pratiquer. Donc ça, c'est la première chose. 90% des gens qui parlent de manipulation, c'est ridicule. C'est « oui, mais imagine que mon corps devienne une arme blanche », mais rien du tout, mon gars, tu es absolument inoffensif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, effectivement, au bout d'un moment, quand on commence à être compétent, pour moi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais il y a un critère qui est assez clair pour être capable de distinguer la persuasion de la manipulation, c'est est-ce que nos buts sont alignés avec ceux de notre public? Moi, quand je fais des discours où j'ai envie d'amener mon public à l'action, nos buts sont alignés. Parce que s'il fait un meilleur discours, il va pouvoir avancer dans la direction qu'il veut et il va se dire c'est chouette, j'ai progressé grâce à Victor Ferry. Donc nos buts sont alignés. Pour moi, c'est ça le critère. C'est est-ce qu'on a un agenda caché ou pas?
Alors, c'est une chose d'avoir un agenda caché, mais un homme politique utilise l'arme de la rhétorique, il cherche à convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. qui ont potentiellement une vision de la société radicalement différente. Est-ce que ça s'applique vraiment au cas que tu évoques?
Bah très bien. Si un homme politique est capable de faire changer la vision de ses électeurs et de gratter des voix comme ça, mais très bien pour lui. Ça veut dire qu'il a été capable d'être plus efficace que ça. Et pour moi, c'est, enfin, au fond, moi, ce que je me dis, c'est que on en fait quand même beaucoup avec les questions éthiques au niveau de la rhétorique. On ne demande pas à un karatéka, regarde, est-ce que tu es sûr que tu as envie de passer la ceinture noire parce que ça veut dire que tu vas devenir beaucoup trop dangereux. Non, après, l'éthique, c'est quelque chose qui est individuel. Si quelqu'un manipule systématiquement son public parce qu'il leur fait faire des choses qui sont nuisibles et qui sont bénéfiques pour lui, ben, au bout d'un moment, il va griller son éthos, il va griller son image et ça va être mauvais sur le long terme. Donc, c'est important d'avoir une réflexion éthique, mais l'éthique, c'est quelque chose qui est personnel d'une part, c'est une question de nos choix, et le professeur qui voudrait enseigner à la fois une discipline et l'éthique qui va avec, je serais assez dubitatif par rapport à ça, parce que l'éthique, c'est quelque chose que les gens doivent apprendre d'eux-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on apprend des autres.
Alors, moi, je voudrais te soumettre une manière de voir les choses. Alors, j'espère que je vais pas être trop confus. Pour faire changer les comportements, il faut être très clair. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. C'est l'information ne suffit pas. Enfin, si cela ça suffisait, aucun médecin ne fumerait. Et puis, d'ailleurs, personne ne fumerait parce qu'on sait que c'est mauvais. On ferait tous de l'exercice et on mangerait tous 5 fruits et légumes par jour. Donc, c'est l'émotion qui nous fait changer. Et d'ailleurs, l'émotion est présente dans 100% de nos décisions. Ces émotions. Tu en as qui sont positives et tu en as qui sont négatives. Sur le plan chimique, tu en as certaines qui vont, par exemple, augmenter ton niveau de sérotonine ou d'ocytocine, et globalement, c'est plutôt positif. T'en as certaines qui vont augmenter ton taux de cortisol et donc l'hormone du stress, et on sait voilà, on en est trop chargé de manière générale. Il y en a certaines qui vont surexploiter ton taux de dopamine et donc déséquilibrer ton équilibre dopaminique. Est-ce que finalement, une des manières de regarder l'éthique de la persuasion, c'est aussi de se dire, bah en fait, tu parlais dans la visibilité des leviers pour être visible ou créer le buzz, on voit que tous, en fait, ils contribuent à construire un monde dans lequel on est saturé d'émotions négatives, saturé de stress. Est-ce que l'éthique de la conviction, pardon, de la persuasion, c'est pas justement d'essayer d'utiliser d'autres leviers comportementaux? On sait que l'émerveillement, par exemple, c'est un levier comportemental qui est important et il est incroyablement bénéfique pour le système nerveux et il a une capacité d'ailleurs à faire du buzz qui est d'ailleurs au-dessus du sentiment de colère. Ça t'évoque quoi quand je te raconte ça?
Donc, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le moment où on capte l'attention. Et donc là, on est dans une compétition avec d'autres personnes qui essaient de capter l'attention. Et donc là, pour moi, l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Et après, en fait, une fois que les gens sont venus chez nous, sont venus suivre notre contenu, je pense que pour construire une relation qui fonctionne sur le long terme, il faut toujours emmener son public de l'ombre à la lumière. Pour moi, une bonne vidéo, c'est ça. C'est même si on a besoin. De toute façon, n'importe quel discours doit commencer par un problème. N'importe quel discours doit commencer par, bah, regardez, il y a cette situation qui est problématique. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer ça? Donc, de toute façon, si on ne commence pas par quelque chose qui, là, maintenant, c'est ça qui est important, c'est ça qui est urgent pour ton intérêt. Bah, les gens n'ont pas intérêt à nous écouter. Pourquoi est-ce que les gens nous écouteraient si on n'est pas là pour résoudre un des problèmes qu'ils ont? Donc, pour moi, le fait qu'un discours commence par une gamme d'émotions négatives, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Et après, la question, c'est où on emmène les gens? Est-ce qu'on va les emmener vers des choses qui est assez courant quand même en politique du type, bah voilà, votre problème ne sera pas résolu tant qu'on n'aura pas vaincu les méchants, et donc ça veut dire de voter pour mon parti, etc. Ou alors, est-ce qu'on va vers quelque chose où, ben voilà, à ce stade, les premiers petits pas que vous pouvez faire, et vous avez la capacité de le faire, vous avez la capacité d'avancer un petit peu, et là, on va être quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc, ça, c'est mon éthique personnelle. Donc il y a des gens qui peuvent avoir une autre éthique, mais je pense que vraiment la distinction nette entre un manipulateur et un pédagogue, c'est que le manipulateur a envie que son public soit de plus en plus dépendant de lui, alors que moi j'ai envie que mon public soit de plus en plus indépendant. J'ai envie que mon public grandisse, et quand je vois des gens dans mon public qui font des vidéos qui cartonnent, qui commencent à avoir quelque chose qui marche, mais je suis super content. Voilà, c'est j'ai envie que les gens deviennent de plus en plus compétents, donc de plus en plus indépendants. Et un jour, bah, ils volent de leurs propres ailes, et c'est un professeur est content quand après il y a quelqu'un qui a choisi une carrière complètement différente de la nôtre et qui a bien réussi et qui se souvient qu'on a eu un petit impact, bah, c'est génial.
Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus naturellement portés à réussir dans ce domaine-là? Est-ce que dans tes élèves, tu as des introvertis ou est-ce que c'est mort si tu es introverti et en gros fais autre chose, n'aie pas de manifeste et va à l'usine où on peut s'en sortir?
Je sais pas en fait les c'est j'ai pas testé les gens qui me suivent. Ce que je sais, c'est qu'en général, quand on a un groupe, ça c'est plus quand je donne des cours à l'université ou quand je donne des formations, au début, il va y avoir des gens qui vont plus naturellement prendre la parole en public. Il va y avoir des gens qui vont attendre un peu plus. Et les deux profils, il faut y faire très attention. Parce que ceux qui vont être naturellement portés à prendre la parole en public, peut-être qu'ils ont tellement de certitudes sur leurs compétences qu'ils vont stagner. Ils vont se dire je sais, je sais, je sais, et ils vont pas se remettre en question. Alors que ceux qui peut-être vont être un petit peu timorés, ils ont conscience de leur marge de progression et donc ils vont être plus attentifs aux différents exercices et ils vont plus les faire. Et donc en tant que pédagogue, il faut trouver un équilibre entre, bah, ok, regarde, toi, tu as pris la parole en premier, ce que tu as fait, c'est très bien, je te remercie d'avoir pris la parole. J'attire ton attention sur ça, ça et ça. Et donc là, il faut que les autres nous respectent parce qu'il faut qu'ils sentent qu'on est vraiment plus compétents qu'eux et donc qu'ils ont une marge encore de progression. Et à côté de ça, justement, il y a des profils qui sont plus timides et surtout, il faut pas les en imposer. Il faut vraiment plutôt leur montrer, bah non, regarde, ce que tu as fait, c'est déjà très bien, tu peux avancer comme ça, tu peux avancer comme ça, et commence pas forcément par une grande prise de parole, commence par quelque chose d'écrit. Donc voilà, il y a effectivement différents profils, et les deux profils ont des difficultés. Il y en a, il va falloir plus leur prendre la main, et il y en a d'autres, il va falloir pas les lâcher non plus, parce que enfin, le professeur peut aussi faire l'erreur de se dire, bah c'est bon, lui, il sait, et de pas prendre le temps de le pousser à aller un petit peu plus loin.
C'est quoi le premier exercice que tu donnes habituellement à tes élèves qui arrivent pour la première fois?
C'est vraiment des choses autour de clarifier leur vision. Pour moi, c'est la première chose, c'est essayer de faire un petit discours sur une chose que les gens devraient faire un petit peu plus ou un petit peu moins pour rendre le monde un peu meilleur. Donc ça leur permet comme ça de se connecter sur quelque chose qui compte pour eux. Ça, c'est la première condition pour faire un bon discours. Et sur quelque chose que le public peut faire. Parce que les discours du type, il faudrait passer une loi pour, enfin, la plupart des gens n'arriveront jamais à se, enfin, seront jamais dans une situation où ce genre de discours serait pertinent. Alors que sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut faire un discours pour dire, bah, écoutez, dans mon quotidien, je vois qu'il y a quand même cette difficulté-là. Et justement, moi, j'ai testé une chose qui peut vous être utile dès maintenant. Donc, pousser les gens à partir de quelque chose qui compte pour eux et les pousser à déboucher sur une action concrète. Moi, c'est le premier exercice.
Alors, je te remercie parce que tu as considérablement dépoussiéré l'image que certains en tout cas peuvent avoir de la rhétorique. Moi, franchement, j'aime beaucoup ta vision, ta manière de présenter les choses et ton manifeste à toi, en tout cas tel qu'il transparaît. Tu as peut-être un manifeste caché, je sais pas. Et du coup, si on souhaite se mettre à ton école, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'artisanat rhétorique, tes chaînes, parce que tu avais ta chaîne principale, tu avais ta chaîne secondaire. Si j'ai bien compris, il y a une troisième chaîne qui est sortie cette semaine, c'est ça?
Tout à fait. Ouais.
Et puis tu as l'artisanat rhétorique qui est probablement le one-to-one avec toi. Comment on se met à ton école, Victor?
Je pense que la première chose, c'est d'aller sur la chaîne qui s'appelle l'atelier de rhétorique. L'atelier de rhétorique, qui a une playlist qui s'appelle Exercice de rhétorique. Et donc, il faut regarder cette playlist. Et donc, il y a une vidéo où je lance un exercice. Donc souvent, c'est je demande aux gens qui me suivent, bah, de faire un exercice, un petit texte. Par exemple, je vais leur lire une page de roman et je vais leur dire, vous écrivez la suite. Ou alors je vais leur donner un plan de discours et je vais leur dire, bah, vous partez d'un sujet qui vous tient à cœur, vous, et vous produisez un discours en suivant ce plan. Ou alors je vais organiser une petite controverse, ou alors, enfin voilà, des exercices qui peuvent être soit faits par écrit, soit faits à l'oral. Et donc, une fois que j'ai lancé l'exercice, bah, j'attends que les gens envoient leurs exercices, et après je fais une vidéo pour mettre en avant les travaux qui ont été faits. Donc moi, je conseillerais aux gens d'aller circuler sur cette playlist. Quand ils voient un exercice qui leur plaît, ils le font. Et quand je lancerai un nouvel exercice, bah, qu'ils osent le faire. Qu'ils osent le faire, c'est une très bonne manière de commencer. Mais commencer par regarder tous les exercices qui ont déjà été faits, parce que ça va donner une idée des différentes compétences qu'on peut développer quand on se met à la rhétorique. Ça, ce serait une chose. L'autre chose, je leur dirais d'aller sur ma chaîne principale et de suivre la playlist qui s'appelle « Formation complète en rhétorique ». Il y a 24 vidéos qui sont très concrètes et qui permettent de progresser. Donc c'est vraiment du contenu de formation qui est gratuit, donc ça vaut le coup de se lancer là-dedans, parce que ça peut être tentant en fait quand on va sur ma chaîne YouTube, parce que j'essaie vraiment d'optimiser des formats pour qu'ils soient efficaces. Mais voilà, ça peut être bien pour la culture générale, mais c'est quand même une distraction par rapport à ce que les gens pourront faire s'ils suivent le contenu de formation.
Ah, je suis resté sur la distraction. Tu accompagnes également de manière individuelle peut-être un certain nombre de personnalités également?
Vraiment, quand il y a un profil qui m'intéresse, parce que le coaching c'est très très exigeant, donc je suis très attentif. Faut que les gens soient quand même avancés, parce que je fais des formations en ligne, et donc les gens peuvent s'inscrire à ma newsletter pour avoir mes articles secrets, et de temps en temps je lance des nouvelles formations. Donc ça, c'est très bien. Dans les formations, ils vont pouvoir atteindre un bon niveau, puis c'est très pratique, je fais un feedback sur ce que les gens font. Mais venir en coaching avec moi, il faut vraiment que les gens aient un projet et qu'ils soient déjà bien avancés, parce que sinon, tout ce que je pourrais leur donner, ils pourront l'avoir soit dans mon contenu gratuit, soit dans mes formations en ligne. Donc les gens que je prends en coaching, c'est quand même des gens qui sont assez avancés dans le tunnel, et donc ça a un coût. Voilà.
Et puis, tu as un compte Instagram, Telegram également, sur lequel on peut te suivre, c'est ça?
Ouais, donc ça, c'est plutôt pour les coulisses. J'aime beaucoup, donc je suis régulièrement en train de tester des nouvelles choses, de créer des nouveaux formats. Donc là, par exemple, j'ai lancé une nouvelle chaîne pour tester quelque chose. Et ce que je fais dans ma conversation Telegram, c'est que je m'adresse aux gens en tant que créateur. Je pars du principe qu'ils sont créateurs, donc c'est pas de l'opinion. C'est vraiment du contenu de stratégie, c'est l'envers du décor. Et donc, je m'adresse à des gens que je considère comme mes pairs pour leur dire, bah voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà ce que vous pourriez en récupérer. Donc, c'est l'envers de... C'est mes décisions stratégiques, en fait.
D'accord. Écoute, merci infiniment pour ton temps, pour tes réponses claires, et puis pour le message qui est... Arrêtez de commenter, arrêtez de nourrir votre frustration et de vous détruire à petit feu, passez à l'action. Et pour ça, on a bien compris que la méthode simple, ce sont les vidéos qu'on va retrouver sur ta chaîne secondaire pour l'exercice et les cours sur la chaîne principale.
Tout à fait.
Un immense merci, Victor.
Avec plaisir, Christophe, et au revoir tout le monde.
Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite, et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie Sabre Clair.